J'ai bien apprécié la parole de Philippe. Il est où, Philippe? Voilà, dans le fond, là-bas. Philippe, sur le sacrifice qu'il a développé. Et je voudrais juste rajouter, disons, ce qui est le contenu du message, qui rentre dans cette réflexion sur le sacrifice. Le sacrifice conduit aussi à la liberté. Contrairement à ce qu'on peut penser, la liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est pas de faire n'importe quoi, comme c'est généralement admis par nos citoyens, nos contemporains. Mais le sacrifice qui conduit à l'obéissance conduit à la liberté. C'est en obéissant qu'on devient libre. Et c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, mais l'obéissance de la foi conduit à la liberté. Et ça, nous devons être porteurs de ce message en tant que chrétiens. Alors, non seulement en tant que chrétiens, mais en tant que membres de cette Église, parce que toute notre vision de l'Église repose justement sur ce point de la liberté, devenir libre. Et ce matin, dans le cadre de l'émission protestante qui passe tous les matins à la radio, justement, il a évoqué cette réforme hein, qu'on va célébrer, hein, qu'on célèbre cette année. Je ne me rappelle plus de la date, c'est le 31 octobre. Donc c'est dans fin du mois, 31 octobre, que Luther a collé, placardé les 95 thèses sur toutes les églises là où il était, l'église catholique de l'époque, 90 thèses de la réforme protestante. Et donc je vous invite, pour ceux qui voudraient vivre un temps fort en France de ce temps de réforme, eh bien c'est à Strasbourg que ça va se célébrer, justement, le 27, 28, 29, donc quoi, le samedi 29, je crois que c'est le 29, qui est le temps fort, et le dimanche. Donc, ceux qui veulent y aller, je vous encourage à y aller, même s'ils ne sont pas très nombreux ici pour le culte, mais c'est un temps fort. Et ce temps de la réforme, qui a réformé les choses, je savais pas que Luther a changé de nom. Et il s'appelait je ne sais plus quoi, et Luther, c'est le nom qu'il a adopté quand après la réforme, ou je ne sais pas quelle année, et Luther veut dire libre. Oui. Donc vous voyez, on est dans ce thème de liberté où la vraie liberté, c'est que notre conscience est libre, non pas de suivre des dogmes imposés, des dogmes d'une religion quelle qu'elle soit. Une religion protestante ou évangélique, ce n'est pas les dogmes. C'est la conscience d'être obligé d'obéir à la parole de Dieu. Et ça nous rend libres. Et Luther, il incarne cette liberté, en tout cas dans ce qu'il a promu à ce moment-là. Et la liberté se fonde sur l'obéissance et le sacrifice à l'obéissance de la parole. Car la liberté vient de la foi en Jésus-Christ. Et il disait aussi ce matin, et c'est un peu en thème d'introduction que je dis ça, ce matin, qu'il dit quels sont les points communs entre le temps de la réforme, 16e siècle, hein, 500 ans, donc il y a 500 ans, qui nous séparent de cette réforme, et aujourd'hui. Et quelque part, c'est intéressant de voir qu'il y a un peu les mêmes thèmes qui sont préoccupants. Ça s'appelle les mérites. À l'époque, au XVIe siècle, les gens étaient très, très préoccupés par leur salut. Leur salut, dans toutes les périodes d'angoisse, d'ailleurs. Hein, aujourd'hui, c'est une période d'angoisse. Hein, angoisse de guerre, angoisse de chômage, angoisse toutes sortes, quoi. Dans toutes les périodes d'angoisse, l'homme réagit pareil. Pareil. Qu'il y ait 4000 ans qui nous séparent, l'homme est homme. Hein. Et nous sommes tous faits de la même nature. Bah, ce n'est pas les smartphones et les machins qui vont nous changer. Et la préoccupation de cette époque au XVIe siècle, c'était le salut. Et à l'époque, le salut était basé sur les mérites. Vous méritez le salut, vous avez des indulgences, etc. Donc la foi était reposée sur des mérites pour gagner le salut. Et aujourd'hui, ce conférencier, justement, radio protestante, il disait aujourd'hui, c'est pareil. Il a même entendu, et je crois que l'avoir entendu aussi, qu'aujourd'hui il parle de payer les fonctionnaires. Vous savez ce que c'est un fonctionnaire? Hein? Ben, on veut les payer au mérite. Normalement, jusque-là, les fonctionnaires, ils avaient leur salaire. Hein. Bon. Et en plus, voilà, suivant les grades, on maintient le salaire. Quoi. Okay. Et c'est ce qui est distingué du privé. Le privé, on fonctionne autrement. Mais non, aujourd'hui, on veut les payer au mérite. Vous voyez, le mérite, c'est quelque chose qui est présent aujourd'hui, comme au XVIe siècle, d'une autre manière, hein, sur le plan économique. Mais les gens qui veulent marcher au mérite. Et le problème, c'est que dans l'Église, nous sommes aussi dans le monde, dans la semaine. Okay, nous sommes plus souvent dans le monde que dans l'Église au sens de corps rassemblé ensemble. Vous voyez, ce rassemblement dominical, il n'est qu'une fois par semaine. On se voit par petits groupes dans la semaine. Mais c'est très très court. Donc vous, vous baignez, comme moi, enfin un peu moins maintenant parce que je suis en retraite aussi, dans le monde. Et dans le monde, aujourd'hui, tout pousse au mérite. Vous méritez une prime, vous méritez ou vous ne méritez pas. Donc vous voyez, il y a un peu une similitude, et c'est bien d'y réfléchir. Et comme au temps de Luther, on est toujours esclave de son temps, esclave de ce qui est autour de nous, même si on s'en défend. Hein. On est esclave et on a tendance à reporter cet esprit dans l'Église. Et c'est là qu'il y a le combat. À l'époque de Luther, il devait combattre cette tendance des mérites. Et bon, c'était l'institution catholique à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément une institution, mais c'est un état d'esprit dans lequel il faut qu'on ne tombe pas. Et merci à Maggie qui a introduit ce moment en parlant de l'amour. Voyez-vous, nous ne devons pas chercher de mérite, même si nous défendons de ne pas faire d'indulgence, comme l'Église catholique, mais très souvent, on marche au mérite entre nous. On mérite ça, on mérite ça. Voilà. Et j'ai bien aimé aussi l'intervention d'Isabelle. Voilà, c'est l'esprit de service, l'esprit de sacrifice, l'esprit de la simplicité. Et ça amène un état d'esprit dans un groupe, dans une communauté. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. L'état d'esprit du « je fais parce que j'ai envie de le faire, parce que je sens que c'est voilà, le temps de le faire, même si Isabelle, dans 6 mois, elle veut faire autre chose. Ouais. » Je veux dire, il faut rester libre. La préoccupation, c'est le bien commun. Le bien commun, Dieu nous a donné cette Église, c'est vrai. Donc ce bien commun, eh bien, il appartient à tout le monde. Et tous, nous n'avons pas revendiqué un mérite ou pas de mérite. Parce que le mérite, ça tue. Parce que le mérite est basé sur le faire. Je fais. Et je reçois un salaire, je reçois. Voilà. Alors que l'être, c'est je suis aimé. Et on doit s'aimer les uns les autres. Non pas pour le mérite, mais simplement par grâce et par amour. Amen. C'est un esprit de grâce qui doit venir sur nous. L'homme moderne est conditionné par ce qu'il produit, par ce qu'il fait. Et plus vous faites, jusqu'à même tomber dans le burn-out, bah plus vous avez de primes à la fin de l'année, plus vous avez des résultats, vous voyez cet esprit-là. Donc on retrouve cet esprit, et malheureusement, parfois il pénètre dans l'Église, et ça pollue l'Église. L'Église ne doit pas reproduire le monde, mais il doit être libre. Alors on reprend, même si c'est le même texte, dans Jean chapitre 8, ce passage qui choque beaucoup les interlocuteurs auxquels s'adresse Jésus, qui sont les Juifs. Hein. Jésus s'est adressé aux Juifs, hein, pas aux païens, donc à son peuple. Et au chapitre 8, il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Dis à ton voisin, la vérité te rendra libre. La vérité nous rendra libre. Amen. Alors les Juifs qui entendent cette parole lui disent, mais nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libre. Voyez-vous, les psychologues qui analysent l'être humain hein, sous l'observation, ils parlent du déni. Et que le déni bloque entre les changements et transformations, voilà, ce qui pourrait permettre à la personne de faire autrement, ce qu'il bloque. Le déni. Là, ils sont dans le déni. Vous êtes d'accord? Si on l'analyse sur le plan psychologique, c'est-à-dire sur le plan de l'humain, eh bien là, les Juifs qui ont cru en Jésus, attention, hein, ce n'est pas des Juifs qui voulaient du mal, parce que dans le verset qui précède, il est dit, ce sont les Juifs qui ont cru en Jésus, qui là, lui disent, mais attends Seigneur, Jésus, qu'est-ce que tu dis là? Tu dis, on deviendra libre, mais on n'a jamais été esclave de personne. Or, le paradoxe, qui est incroyable, c'est qu'ils étaient en train de fêter cette fête-là, parce qu'ils viennent régulièrement à Jérusalem pour fêter la Pâque, etc. Là, ils fêtent le moment des huttes, le moment des tentes, pour se rappeler le temps où ils étaient dans le désert après la sortie de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils étaient en Égypte? Ils étaient libres dans l'Égypte? Ben non. Ils étaient plus d'une centaine. Ils étaient 450 ans en Égypte. Bon, au début, ça allait très bien. Joseph était le deuxième ou le troisième, je crois, du gouvernement de Pharaon. Mais une centaine d'années, ils étaient en esclavage. En esclavage. Et tellement l'esclavage était terrible qu'ils ont crié à Dieu. Dieu les a entendus. Et après ce cri et que Dieu les a entendus, il les a exaucés. Il les a fait sortir avec puissance de l'Égypte. Et ça, c'était la Pâque, le passage de la mer Rouge. Donc ça les a marqués à vie, et toute la liturgie juive et même chrétienne repose sur la Pâque. Vous êtes d'accord avec ça? Et eux, ils disent, mais nous n'avons été esclaves de personne. Voyez-vous le déni? Vous voyez que c'est humain. C'est humain de nier des fêtes. Incroyable, quoi. Ils sont dans une fête qui rappelle ça et ils disent à Jésus, mais non, voilà. Vous voyez, ça c'est une manière humaine, tout de suite, de ne pas recevoir la vérité. Jésus leur dit, la vérité vous rendra libre. Et ils sont en train de mentir, de dire non, mais qu'est-ce que tu racontes Jésus? C'est n'importe quoi, nous n'avons été esclaves de personne. Vous voyez, ils se prennent eux-mêmes à leur piège. Est-ce que j'ai fait passer le point là? Vous avez compris? Est-ce que nous ne sommes pas comme ça? La parole de Dieu doit nous interpeller, nous, chacun en particulier. Ça ne va pas rester une histoire il y a 2000 ans. Est-ce que nous ne sommes pas souvent comme ça dans notre vie personnelle? Jésus dit, voilà, enfin Jésus, la parole de Dieu, Jésus au travers de la parole nous parle, nous dit quelque chose, dit voilà, la vérité te rend libre et tout ça. Puis quelqu'un vient vous voir. Alors bien sûr, si c'était Jésus en personne, vous diriez, ah non, non, mais j'accepterais. Bien sûr, alors c'est quelqu'un dans l'église, quelqu'un que vous n'aimez pas. Voilà, par hasard. Mais Jésus le fait exprès, hein. Enfin, le fait exprès. Il laisse les choses faire exprès, il ne prend pas quelqu'un qui vous aimait pas. Bon, ça ne marche pas comme ça. Mais il permet que quelqu'un vous dise quelque chose. Dis-moi quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je suis libre. Jamais été esclave de personne. Je dis, non, ce que tu dis, bah ouais, bah, etc. Voilà. Et donc, du coup, vous mettez une défense contre quelque chose qui pourrait vous sauver, qui pourrait vous apporter la liberté. Vous voyez, c'est ça. Donc, laissez le Saint-Esprit ce matin vous parler, pour que vous sortiez d'ici différemment de ce que vous êtes entré. Alors, c'est ça, la parole de Dieu doit nous interpeller chacun là où nous sommes. Nous ne sommes pas plus grands les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je suis plus grand que vous. J'ai simplement un rôle différent, j'ai une fonction différente, mais je suis exactement au même niveau que vous. C'est d'ailleurs le principe de la réforme. Nous sommes tous à niveau égal des prêtres. Il n'y a pas des prêtres et des clercs et des laïcs, des prêtres et des fidèles, non. Ça, c'est voilà, l'institution catholique qui, au fil des temps, qui d'ailleurs se rentre dans l'Église évangélique, vous savez, l'Église évangélique reproduit en quelques années ce que l'Église catholique a fait pendant des siècles. Hein. Donc, nous ne commençons pas à critiquer une institution parce que les choses sont les mêmes dans toute rencontre humaine, les choses se reproduisent. Voilà. Donc ce que je veux dire ce matin, en particulier, c'est de dire, regardons à nous, est-ce que nous protégeons contre toute vérité qui nous est dite, parce qu'elle nous dérange, et que du coup, nous la balayons, alors qu'elle était là, justement, pour nous aider. Là, Jésus s'adresse aux Juifs en disant une vérité. Or, comme ils sont dans le déni, ils ne peuvent pas changer. La preuve, c'est qu'un petit peu après, ben, ils commençaient à prendre des pierres pour le lapider. Et ils ont commencé à croire en lui, et comme le message ne leur plaisait pas, parce que ça n'allait pas dans leur sens, maintenant nous sommes des descendants d'Abraham. Attention, hein. Respect, hein. On ne touche pas aux descendants d'Abraham. Vous voyez, comme si la filiation d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait, le bébé là qui naît dans une famille juive? Il a fait quelque chose de plus que vous? Vous n'êtes pas juif? Vous voyez, c'est cet orgueil. Je suis descendant d'Abraham, donc on ne me dit rien. On ne me dit rien. Là, Jésus, tu gardes ça pour toi, ou tu le dis à d'autres, mais pas à moi. Vous voyez, c'est cet orgueil qui caractérise chacun, c'est le péché. Et on voit après, ben, il commence à se retourner contre lui, parce que Jésus enfonce le clou. Alors bien sûr, il enfonce le clou tellement que si un pasteur, si moi je disais ça, je serais pendu au poteau tout de suite. Il dit, votre père, c'est le diable. Et il va jusqu'au bout après. Parce que comme il ne se passe rien et qu'il reste dans ce déni, ben, il dit, ben, votre père, c'est le diable. Alors bien sûr, ça... c'est absolument impardonnable, parce que leur père, ce n'est pas le diable. Mais voilà, le diable, il illusionne. Le diable, il ment. Le diable, il nous entraîne dans des impasses. Le diable, il nous entraîne parce qu'au départ, nous n'acceptons pas la vérité. J'aime bien un psychiatre chrétien qui s'appelle Scott Peck, qui d'ailleurs s'est converti quelques temps après les livres qu'il a écrits. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et il disait que parfois dans son cabinet, il recevait des gens qui, quand ils acceptent la réflexion, parce que normalement un psychiatre qui se respecte, il fait parler les gens, voilà, sur eux-mêmes, ils écoutent. Mais quand ils sont dans une réflexion, il dit en 4 séances, ils sont sortis d'affaire. Alors qu'il explique que certaines personnes sont dans le déni, ben, pendant 4 ans, il ne se passe rien, et du coup, ils partent et il ne se passe rien. Et on s'auto-bloque. On s'auto-bloque quand on veut s'auto-protéger. Et en fait, c'est l'indépendance. On veut être seul. Or, Jésus nous a fait pour être ensemble, pour une relation, relation avec Dieu, relation avec les autres. Quand on se coupe de ça, on se coupe de la capacité à changer, la capacité à être transformé. Hello? Ouais. C'est ce qui se passe avec ces juifs. Jésus leur dit, mais voilà, je suis là pour vous dire que c'est la vérité qui vous rendra libre. Et le problème, c'est que lui, il était la vérité. Ouais. La vérité, c'est Jésus. Hein, c'est pas quelque chose qu'on manipule, c'est une personne qu'on respecte. Et Jésus, en personne, ben, il ne le respectait pas, parce qu'il ne le reconnaissait pas. Il dit, mais vous ne connaissez ni mon père, ni moi. Si vous dites que vous avez un père, mais vous ne le connaissez pas, parce que si vous me connaissiez, vous connaissiez le père, vous connaîtriez le père. Voyez. Donc il leur montre ce déni qui les amène à un aveuglement sur eux-mêmes, sur la situation réelle, sur la vérité. Amen. La vérité nous rendra libres. Vous êtes esclaves du péché. Le péché, bien sûr, c'est un mot maintenant qui est banni du vocabulaire qui se respecte, parce que voilà, c'est pour le Moyen-Âge, ça, le péché. Le problème, c'est que, bon, on peut le tourner dans tous les sens, on peut trouver d'autres termes, on peut dire manquer la cible, voilà, bon, c'est plus... voilà, c'est un peu plus littéraire que péché. Mais bon, le péché, c'est le mot qui est utilisé dans la Bible pour dire que il y a une transgression qui s'est opérée par rapport à la parole, c'est toujours la parole de Dieu, où Dieu, quand il a mis l'homme et la femme, donc l'humanité, dans ce jardin idyllique, où il n'y avait pas le mal qui s'exerçait, mais l'ennemi n'a pas tardé à rentrer dans cet espace et a commencé à faire douter l'homme et la femme de la parole, et que ben, ils sont tombés dans le piège d'écouter la voix du serpent, eh bien, automatiquement, ils ont coupé. Ils se sont coupés l'herbe sous les pieds eux-mêmes, parce que comme Dieu les a fait libres, et nous sommes tous libres de suivre la vérité ou pas la vérité. Et c'est pour ça qu'il n'est pas question qu'une religion s'impose. comme ça a été le cas de Constantin, pour la religion chrétienne, pour le christianisme ou autre, hein, ou même aujourd'hui, il n'est pas question d'imposer la religion, une croyance. Il faut que chacun décide pour lui. Il faut que chacun accepte de croire ou de ne pas croire. Un pour le salut, mais aussi pour la sanctification, pour les progrès. Parce que quand on est sauvé, quels sont ceux qui sont sauvés ? Vous êtes tous sauvés, non ? S'il y en a qui ne sont pas sauvés, non, mais c'est possible, hein. Acceptez Jésus, aujourd'hui même. Parce que il n'y a qu'en lui que vous pouvez être délivré. Mais si vous êtes sauvé, c'est pas la fin de votre séjour, c'est pas la fin de votre vie, hein. Ok ? C'est le début de quoi ? D'un chemin qui est en progression. Et en d'autres temps, Michel en particulier, qui prêchait, disait bien, nous sommes tous en chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'ici qui est arrivé au bout du chemin ? Non ? Est-ce que quelqu'un ici est parfait ? Qu'il se lève. J'aimerais le rencontrer. Voilà, pour parler avec lui, puis surtout avec sa femme. Ou avec son mari. Pourtant, je vais vous apprendre quelque chose que vous savez certainement, mais ça rafraîchit un petit peu. Quel est l'objectif d'être chrétien ? Quel est l'objectif final, ultime, au-dessus de tous les autres objectifs, hein, il y a plusieurs objectifs, de ce chemin du chrétien ? Allô ? Alors, vous parlez trop en même temps ? Pardon, glorifier le Seigneur ? C'est vrai. Obéir à Dieu. Aimer Dieu. J'aimerais entendre le mot que j'attends. Ressembler. Bon, vous êtes trop pudique, hein, vous osez. Pardon ? Allô ? Qui est-ce qui a dit ça ? Ruben. Merci, Ruben. C'est d'être parfait. Vous saviez pas ça ? Non, mais regardez Éphésiens 4. Éphésiens 4, 12. Alors c'est important ça, parce que ça, c'est le centre de la vision de l'Église. C'est la vision de l'Église, ce qu'on vient de dire là. Éphésiens 4, où est-ce qu'il est Éphésiens là ? Voilà. Éphésiens 4, 10, jusqu'à 12. Verset 10, il est dit, celui qui est descendu, donc aux enfers, hein, Jésus, avant de monter, il est descendu aux enfers pour libérer les captifs. Celui qui est descendu donc est monté dans les cieux pour remplir toute chose. C'est pour ça que les scientifiques aujourd'hui, dans la physique quantique et tout ça, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui est bizarre. On n'est plus dans le physique, on est aussi dans le spirituel. Pourquoi ? Parce que Jésus remplit toute chose. Et du coup, s'ils sont vraiment honnêtes, mais bon, la voie, c'est pas la science pour rencontrer Dieu, mais ils ne peuvent que rencontrer Jésus, parce que Jésus est à l'origine de toute chose. Colossiens dira qu'il est dans le physique, dans le spirituel, dans le mental, partout. Il remplit toute chose. Voyez ? Donc quand on est vraiment honnête, on ne peut que rencontrer Jésus. Partout on cherche. Parce qu'il est monté au ciel pour remplir. Chose extraordinaire, ça. Nous avons un message en tant que chrétien absolument incroyable qui devance toutes les découvertes scientifiques qui seront faites jusqu'à la fin des temps, si jamais Jésus tarde, parce qu'on ne peut que rencontrer Jésus, parce qu'il remplit toutes choses. C'est marqué là. Et c'est marqué dans Colossiens, alors là, dans une formule magnifique, tout le chapitre premier de Colossiens. Celui qui a donné les uns comme apôtres, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, pour le... Alors, dites-le tous ensemble. Perfectionnement. Allô ? Donc, nous sommes appelés à être perfectionnés. Allô ? Dis à ton voisin, tu es appelé à être perfectionné. Voilà. Eh oui. Donc si on regarde en arrière... Parce que Il y a des chrétiens maintenant qui font comme le monde, ils font des bilans tous les ans. Luc Maroni fait des bilans tous les ans. Voilà. Et un bilan sérieux. Hein. Il accepte d'avoir un bilan sur lui-même. Bon, je ne vous demande pas de le faire, mais c'est juste un exemple. Si on fait un bilan et qu'on regarde 3 ans en arrière, 10 ans en arrière, on a le droit de dire est-ce que j'ai fait des perfections ou pas ? Est-ce que je me suis perfectionné ou pas ? On a le droit. On a le droit parce que ça permet objectivement de dire il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce n'est pas des mérites, ça. C'est simplement est-ce que l'œuvre de Dieu s'est faite en moi par le Saint-Esprit pour que sur telle réaction, je ne réagis plus pareil. Vous voyez, vous pouvez noter. Si vous êtes très honnête, vous pouvez le faire vous-même, le bilan. Vous n'avez pas besoin de personne. Tiens, sur ce truc-là, tiens, je réagis plus pareil. Moi, par exemple, quand je regarde, quand le Seigneur m'a amené dans le ministère, je ne suis plus du tout le même. Hein. Vous pouvez demander à mon entourage. Il y a des choses qui me faisaient hurler, qui me faisaient sauter, vous ne faites plus rien. Voilà. C'est pas parce que je ne le vois pas, mais c'est parce que le Seigneur m'a donné sa grâce pour voir les choses de manière pastorale, comme un berger qui dit « Ah oui, il y a telle brebis là, qui est mal, bon, elle hurle, mais bon, c'est normal, elle a mal, mais je ne pas à cause de moi, c'est... » Voilà, ça me fait... Voilà, je réagis d'une autre manière. « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Je suis remis en cause. Oh. » Non, je ne suis pas remis en cause. Il a mal, donc il faut aller l'aider. Voyez. Donc, vous voyez, et des choses, quand on regarde en arrière, s'il y a des choses qui ont changé, ça veut dire que, voilà, on rentre dans une maturité. OK ? Ça s'appelle la maturité en Christ. Donc, je continue ma lecture. Pour le perfectionnement des saints. Et ce n'est pas fini. C'est pas fini. Il rajoute, Paul, guidé par le Saint-Esprit, cela en vue de l'œuvre du service, vous voyez, pour servir. Si moi je sers et que je suis un hérisson, vous connaissez les hérissons là, des pics ? Dès que vous les touchez, vous ne pouvez pas les toucher. Il faut prendre des gants, il faut prendre des machins, enfin, c'est impossible de toucher un hérisson. Bon, si vous avez un pasteur qui a un hérisson, je ne vous dis pas, voilà. Il sera tout seul hein, dans son église, hein, c'est normal. Un pasteur, c'est une chose, mais aussi les chrétiens. S'il y a des chrétiens hérissons, autour d'eux, forcément, ça fera du vide, c'est normal. C'est normal. Voilà, donc, pour le perfectionnement des saints, cela en vue du service et de l'édification. On retrouve de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à, donc vous voyez, c'est un chemin, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait. Peut-être que vous avez dans vos Bibles « fait », mais le terme grec, parce que c'est pareil, ils n'ont peut-être pas voulu charger les traducteurs Louis II, mais c'est « parfait ». Jusqu'à ce que nous devions parfaits, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là, ils n'ont pas pu mettre fait, donc ils ont dû mettre parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez, donc le mot perfection se retrouve 3 fois dans 2 versets, et dans l'esprit de ce qui nous est annoncé ici. Alors, il y a quand même une raison aussi. C'est pas juste gratuit pour venir à la perfection. D'une part, la perfection, parce que nous sommes destinés à la perfection, parce que nous venons d'un être que Dieu a créé qui était parfait. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient parfaits, je suis désolé. Dieu a fait les choses parfaitement. L'homme les a détournés, nous nous détournons à cause du péché, chacun de nous, nous détournons les choses à cause du péché, donc nous sommes imparfaits. Mais l'idée, c'est de revenir à la perfection en Christ, pas en nous, en Christ. Parce que Christ, l'être parfait qui est venu donner sa vie, il nous entraîne dans sa perfection. Il nous entraîne avec lui. Mais le problème, c'est que très souvent, nous avançons, et puis après, on est fatigué, donc on fait une pause, et puis voilà, on est tout dans notre imperfection, jusqu'à ce qu'on reprenne la marche. Donc parfois, ça prend du temps. Parfois, il y a des chrétiens qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Le problème, c'est que c'est pas grave de descendre, mais ce qu'il faudrait, c'est que la courbe globale soit ça, et soit pas ça. Parce que sinon, c'est des yo-yo. C'est des chrétiens yo-yo. Mais il vaut mieux être des chrétiens qui montons, même si on descend de temps en temps, mais que la courbe monte, globalement. Il n'y a pas de continuité parfaite, ça n'existe pas. Parce qu'on a besoin de comprendre des choses, on a besoin de réaliser les choses. Mais si chacun d'entre nous acceptons cette notion de devenir parfait, non pas par orgueil, mais par obéissance à la parole, eh bien nous pouvons accepter voilà, les petites vexations. Bon, chrétien qui me dit « t'as fait ça ?»« Ah non, j'ai pas fait ça !»« Tu peux en dire plus ?» ouais, c'est l'humilité, ça s'appelle l'humilité. « Tu peux en dire plus ?» et accepter que le chrétien en question me dise des choses qui peut-être ne me plaisent pas, à première vue, mais qui vont m'aider à terme. Bon, si c'est faux, vous, il y a une poubelle à côté, vous mettez la poubelle, c'est pas grave. Mais si c'est vrai, bien vous allez devenir plus parfait qu'avant. C'est vous qui êtes bénéficiaire. Vous voyez ? On voit toujours les autres. Mais non, mais c'est vous. Le Seigneur veut vous amener à la perfection. Le Seigneur veut amener une église à la perfection pour qu'elle puisse montrer au monde que l'amour existe, puisse montrer au monde qu'il y a une autre société possible. Alors, si nous venons à l'église tous les dimanches et que nous sommes pareils que dans le monde, mais vous voulez que les gens viennent ici ? Mais pourquoi faire ? Pour voir la même chose ? Pour voir la même chose qu'il y a dans le monde ? Mais c'est quoi ce truc ? C'est débile, quoi. C'est débile. Non, il faut qu'ils viennent ici pour voir autre chose. Qui est d'accord avec moi ? Il faut qu'ils viennent ici pour voir autre chose. Pour qu'ils voient l'amour en action. Pour qu'ils voient des vies changées. Pour que quelqu'un qui dise « Ah ben tiens, je l'ai connu, j'ai travaillé avec lui il y a 15 ans, ben, je ne te reconnais plus, t'es plus pareil. » ma femme raconte l'histoire du témoignage de son père, qui est venu au Seigneur. C'était un bon Français, qui aimait beaucoup l'humour, il était super et tout. Mais Dieu, non. Dieu, non. Il était élevé chez les catholiques, comme pratiquement tous les Français à l'époque, etc. Et il a même fait des voyages en Italie avec son curé, tout ça, voilà. Mais bon, voilà, la foi, la religion, tout ça. Il avait beaucoup de copains qui étaient prêtres, qu'il allait voir régulièrement, c'est pas un souci. Mais, voilà. Ma belle-mère s'est convertie, elle a prié pendant 10 ans pour lui. Il ne passait rien. Mais il n'était pas hostile. Hein. Ma belle-mère pouvait aller à l'église, elle lui faisait des petits plats dans les grands, quand elle partait, voilà, s'occuper de lui, c'était super. C'était une famille sans problème. Et un jour, il est tombé malade. Colique néphrétique. Waouh ! Il se tournait de douleur et tout ça. Et puis ma belle-mère qui lui dit « Est-ce que tu veux que je demande à quelqu'un de prier pour toi ?»« Ah oui. » Là, vous voyez, quand Dieu utilise des moyens, c'est pas les nôtres. Hein. Mais bon, c'est Dieu, donc si nous, on donnait un coup de pied, ça ne marcherait pas. Mais là, il dit oui. Il dit oui, sur le bout des lèvres. Donc le frère, il vient. C'est pas le pasteur, hein. C'est n'importe quel, enfin, c'est un frère de l'église hein, qui est venu et qui connaissait ma belle-mère depuis 10 ans, qui savait que, attention, hein, faut pas lui parler de Dieu, hein, c'est quelque chose qui est pas toléré, voilà. Alors il vient dans sa chambre, il dit, frère, je sais plus comment il l'appelait, Henri, je peux prier pour toi ? Il dit, oui. Il dit, Seigneur, guéris-le. Il est parti. Il est parti. Il était immédiatement guéri. Vous voyez, c'est pas des grands trucs, la guérison, le machin. Enfin, bon, je dis pas, parfois il faut insister hein, pour prier. Je dis pas ça. Bon, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en l'occurrence, c'était juste la foi d'un frère qui a dit Seigneur, guéris-le. Il est parti pour pas faire de scandale, machin, etc. Bon, il était guéri tout de suite. Le médecin l'a engueulé. On dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On ne guérit pas des coliques néphrétiques. Ça reviendra. Ben, il est mort, c'est jamais revenu. Il était guéri. Et voilà. Point barre. C'est pour rendre gloire à Dieu. Mais pour dire que... Je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs. Pardon ? Voilà, il a changé. Ah oui, non, c'est parce que l'histoire continue. Le changement, parce que là, il a changé dans le sens où il était en face d'un miracle surnaturel. Mais ensuite, après, il a accepté de venir. Voilà, la suite de l'histoire, c'est qu'il n'était pas converti, hein, il était juste frappé de guérison. Du coup, Isabelle m'a dit, non, il n'a rien dit, il n'a rien dit, il n'a rien dit. C'est une femme très sage, il n'a rien dit. Et il est allé au fond de son jardin, où il trafiquait, enfin, il bricolait, tout ça. Et puis, il remonte, il dit, je vais avec toi à l'église. Ah bon? Alors, elle est priée, il dit, surtout, surtout, qu'ils ne viennent pas au mauvais moment, parce que, voilà, dans la réunion de prière, il y a des petites mémées, tout ça, bon, ça ne le fait pas, voilà, vous voyez, elle avait la trouille, quoi. Et quand il a dit, je viens, c'était quoi comme réunion où ma belle-mère allait aller? Chez les gitans. Waouh, alors là, c'est la catastrophe. Je veux dire, lui, il est cultivé, il faisait aucune faute de français. Hein. Il vérifiait dans les journaux, c'était un vérificateur de journal. Donc, il faisait aucune faute de français. Et là, les gitans, bah, il y en a qui savent écrire, lire, ils mettent des croix, des trucs, ils écharpent la langue française, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Et mais qu'est-ce qui va se passer? Bon. Finalement, elle dit, ok, bon, s'il veut venir, il vient. Ils arrivent dans la tente, là, une tente, il y a les gitans. Et puis, voilà, et puis, mon beau-père, il rentre dans la tente, de ce coup, à l'entrée, il voit un gars qui travaillait avec lui. Un type de sac et de cordes, quoi. Il avait 36 maîtresses, machin, il s'en réjouissait au boulot, enfin, qu'il connaissait et tout ça. Il dit, quoi? Il avait y retourné, mais il pouvait plus. Et puis je dis, ah, Henri, Henri, mais c'est super, Henri. Mais tu sais, moi, j'avais tant de maîtresses. Moi. Je dis, attends, quoi? En plus, il était un peu pudique, mon beau-père. Ça ne dit pas comme ça devant le public, quoi. Voilà. Ça se dit peut-être en privé, mais voilà, de dire comme ça, ouais, j'avais des maîtresses, des machins, il raconte sa vie. Mais j'ai changé, Jésus est rentré dans ma vie. Waouh, c'est quoi ça? Et frappé du changement. Et grâce à ce changement, il a écouté la parole et il s'est converti. Alors, il a vu un changement. Et c'est ce changement, il a dit, c'est pas possible. Quelqu'un comme ça, il est changé et que maintenant, il va à l'église. C'est pas possible. Tout, mais sauf ça. Vous voyez, le changement l'a frappé. Vous voyez? Et je ne sais plus qui... c'est John Wimber, je crois. Je ne sais plus qui. Je n'ai pas de mémoire, hein, donc parfois je me trompe, excusez-moi. Je ne sais plus qui a dit... un revivaliste en tout cas, que quand vous changez, même le chien chez vous doit s'en apercevoir. Et c'est vrai parce que quand il y a eu le réveil du Pays de Galles et que les mineurs de fond, qui sont quand même des chartiers, hein, enfin, quand ils parlent et tout ça, voilà, eh bien, quand ils se sont convertis, eh bien, toutes les mines se sont arrêtées, ne marchaient plus. Pourquoi? Parce que les chevaux qui étaient dans le fond, descendaient les chevaux. Eh ben, ils ne les comprenaient plus parce qu'avant, ils juraient. Donc les chevaux, ils ne connaissaient que ça comme langage. Ben, ils ne marchaient plus. Tout était... Voilà. Ils ont dû remonter les chevaux, redescendre des nouveaux chevaux. Et c'est assez historique. Hein, je n'invente pas. Hein. Des nouveaux chevaux qui s'adaptent au nouveau langage qui était un langage policier. Enfin, policier, en tout cas, pas juré... qui parlaient de Dieu n'importe comment, voilà, etc. Ils étaient ivres. Même. Tu vois, vous voyez, ça va jusqu'au cheval ou jusqu'au chien, qui ne vous comprend plus parce que vous avez changé. Donc, vous voyez, objectivement, le changement montre si vous êtes en progrès ou pas en progrès. Donc je vous invite à ce petit voilà, test qui vous permet de voir si vous avez progressé ou pas. Le péché, un, il touche tout le monde. Il est universel. Il n'y a pas un seul être humain sur la terre qui ne pêche pas. Et le roi Salomon disait dans sa sagesse, il n'y a point d'homme qui ne pêche. Et Jésus disait, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus est venu pour des pécheurs. Et sur la terre, quand il a fait son ministère, il est allé vers les pécheurs, vers les pécheresses, et pas vers les justes. Les justes, il les confrontait avec leur propre justice. Pécher, c'est désobéir à Dieu. Ne pas pécher, c'est obéir à Dieu. On a entendu ce matin déjà. Dieu a créé l'homme Il lui a fait connaître la voie qu'il doit suivre pour être heureux. Mais l'homme n'a pas voulu suivre la voie que Dieu lui indiquait. Et il a décidé de tracer sa vie lui-même. Est-ce que vous voulez décider, non pas de tracer votre vie, mais de la confier au Seigneur? Pas seulement le dimanche, mais à chaque instant. Ça, c'est un défi. Le péché est grave. Pourquoi il est grave? Parce que quand on fait quelque chose de mal, notre conscience nous le reproche. Et pour faire taire la voix de notre conscience, nous nous trouvons des excuses, du déni. Et nous essayons de nous convaincre que le péché n'est pas grave. Hello? Vous savez comment ça marche, une conscience? C'est une petite voix. Rémi, tu vois ce que je veux dire? C'est une petite voix où, quand vous voulez voler quelque chose, voilà, je ne sais pas, vous avez du chocolat, voilà. Dans un magasin où vous n'allez pas payer, il dit non, c'est pas bien ça. Non, mais j'ai envie, voilà, il n'y a personne. Voyez, c'est la petite voix qui vous dit non. Mais cette petite voix, elle vient d'où? Elle vient de Dieu, elle vient de vous, elle vient d'où? Hello? Comment marche la conscience? Vous le savez? Comment cette petite voix vous dit à vous? À toi, il va dire non, il ne va pas. À quelqu'un qui est habitué, c'est pas grave. Pardon? Non, c'est un entraînement. Elle est entraînée. La conscience, c'est un entraînement d'une conscience intérieure, ce Dieu qu'il a créé, qui vous protège jusqu'à ce que vous ne l'écoutiez plus. Et du coup, vous transgressez cette conscience parce que Dieu a donné, vous voyez, il ne nous a pas laissé tout seul. Dans la liberté totale. Il a donné conscience. Cette conscience, quand elle est bien entraînée au bien, il va vous aider à ne pas pécher. Pour pécher, alors, vous voyez, ça passe, c'est vrai pour les terroristes, c'est vrai pour les machins. Alors, si vous voulez comprendre un peu mieux ça, vous regardez les satanistes. Parce que c'est l'extrême. Moi, j'ai appris en maths que quand on ne sait pas résoudre un problème, on le fait par l'absurde. Voilà. Donc, voilà, l'absurde, c'est une façon de traiter les problèmes. Quand vous ne savez pas résoudre une équation à 5 inconnus, 6 inconnus, 10 inconnus, vous ne l'avez pas appris, par l'absurde, ça ne marche pas tout le temps, mais des fois. Alors, c'est quoi l'absurde? L'absurde, c'est de dire les satanistes, eux, ils inversent tout. Donc, on va voir comment ils fonctionnent pour détruire leur conscience. Parce que pour faire ce qu'ils font, il faut qu'ils aient plus de conscience du tout. Vous voyez? Et quand vous voyez comment ils font, alors regardez, simplement objectivement, hein, les gens qui sont suicidés, la tempe solaire, machin, enfin il y en a tout plein. Au Venezuela, je ne sais pas, ils se sont tous suicidés d'un seul coup. Je ne me rappelle plus maintenant les noms, vous voyez, que je vais m'adresser. Bon, les satanistes. Eh bien, ils sont entraînés pendant des années, à faire taire leur conscience. Par exemple, il faut qu'ils boivent de l'urine. Des caca, des machins. Enfin, il faut qu'ils... Bah, petit à petit, on les entraîne pour que leur conscience fasse des choses que vous, vous ne pouvez pas faire. Vous voyez? C'est ça, hein, c'est un entraînement. Et du coup, quand le gourou, à un moment donné, dit « Vous suicidez, mais c'est suicide », ou quand ils font ça, vous voyez, c'est la manipulation, bien sûr. Mais il faut que la conscience puisse être... Oui, mais c'est la conscience. Hein. Oui, c'est le lavage de cerveau. Mais la conscience ne parle plus, et il pense que c'est bien. Ils peuvent faire du sexe avec des animaux, n'importe quoi, enfin, tout ce qui est l'inceste. Oui, ils le font exprès pour qu'ils puissent obéir au doigt et à l'œil quand Satan décide quelque chose. Ils le font. Oui. Et on a affaire en ce moment avec ce terrorisme, ce machin, etc., de plus en plus à du contrôle par l'ennemi qui veut détruire, tuer, voler, égorger, on le sait, mais c'est lui qui dirige derrière. Et quand cette conscience... Vous voyez, c'est pour ça qu'en 68, les mœurs ont été cassées. Parce qu'il y avait quand même du bien. Ça ne veut pas dire que les gens étaient chrétiens et parfaits, c'est pas ça. Mais l'institution gardait une sorte de rôle, les parents, etc. Or, en faisant sauter tout ça, ben, la conscience, petit à petit, elle peut se relâcher, vous voyez. Il n'y a plus quelqu'un qui vous dit... Si vous dites quelque chose à vos enfants, enfin, un peu pas les vôtres, mais ils vous ont baladé. Ah, qu'est-ce que tu as à me dire? Ben, voilà, donc, du coup, avant, ma mère nous a tous dit, aux belles-filles, hein, qui étaient... Mais, ils ont dit, vous ne vous rendez pas compte que pour vous, c'est plus difficile que pour nous. Vous voyez, elle a accepté ça. Dire pour nous, c'était plus facile que pour vous d'élever des enfants. Parce que quand on les envoyait à l'école, quand on les envoyait à quelqu'un, eh bien d'autres les reprenaient, les enfants, dans la même éducation que ce qui se passait à la maison. Donc en fait, dans une ville, hein, c'est quand même une ville où j'étais, c'est pas un village, un village c'est encore plus facile, vous voyez. Parce que la conscience d'une moralité était présente. Et elle a dit non, aujourd'hui non. Tout le monde démissionne. À l'école, je plains effectivement les ceux qui sont en situation d'enseignement ou autre, vous ne pouvez plus rien dire. Hein. De toute façon, en plus, la loi s'y est mise pour vous interdire de toucher, etc. Le péché est grave. Le péché nous sépare de Dieu, je n'insiste pas, car Dieu est saint. Le péché nous rend esclaves. Et le péché nous dresse les uns contre les autres. Alors, je vais terminer pour qu'on puisse prier un instant en vous rappelant que les choses ne vont pas dans la bonne direction, hein, mais c'est normal puisque la fin des temps qui a déjà commencé il y a 2000 ans, puisque l'apôtre Paul dit on est dans la fin, c'est ce qu'on appelle un siècle ou une ère, même si ce n'est pas un siècle, 2000 ans, mais c'est une ère donnée. Et ceux qui vont faire Georges Lade, ils comprendront c'est un aïon en grec. Cette ère a commencé la fin des temps il y a 2000 ans, mais aujourd'hui on est plus près de la fin qu'il y a 2000 ans, vous êtes d'accord ? C'est la fin de la fin, mais bon, je ne sais pas quand le Seigneur va revenir, même s'il revient dans 1000 ans, ce n'est pas le problème, mais quand même plus près de la fin qu'il y a 2000 ans. Eh bien, les choses s'accélèrent dans la notion de désobéissance, dans la notion de péché, etc. etc., etc. Et ici, vous avez les symboles. Un symbole, c'est un langage très condensé dans lequel voilà, vous pouvez d'un seul coup saisir une réalité. Le symbole de ce bonnet phrygien qui a été porté par les sans-culottes de la Révolution française en 1789, quand ils ont attaqué la Bastille. Ce n'était pas juste attaquer la Bastille, c'était une réclamation de la liberté, parce que ça, c'est ce bonnet-là, était porté par les Phrygiens, qui aujourd'hui c'est la Turquie, qui étaient libérés de l'esclavage pour de leur maître, pour être dans c'était libre, c'est-à-dire devenir un citoyen. Citoyen, ça veut dire libre. Qui pouvait voter, qui pouvait s'exprimer, qui pouvait, etc. Voilà. Donc ça, c'était une réalité à l'époque de Jésus. Donc ce bonnet a été ressorti à l'occasion de la Révolution française. Et aujourd'hui, vous le voyez porté aussi par les gens de la France insoumise. Vous voyez, c'est pas du tout un hasard qui porte le bonnet phrygien, on est insoumis, on veut faire ce qu'on veut. C'est toujours la même idée, c'est je veux plus être sous l'esclavage de personne. Il est interdit d'interdire, etc. Donc ça c'est 1789, c'était une libération politique et une libération voilà, de la noblesse et du clergé à l'époque, d'ailleurs qu'on a fait passer par la guillotine en masse. Ici, 1789, 1889, c'est tous les 100 ans. 1889, en fait, la science. La tour Eiffel a été construite dans cet esprit de fêter la science. C'est pour ça qu'elle est aussi haute. Elle devait être plus haute que les églises. Le problème, c'est que l'église catholique a réagi et ils ont créé Montmartre pour être plus haut. Vous voyez, c'était une bataille. Ah oui, non. C'était une bataille entre l'église et le laïcisme. Ça, c'est la France, hein. Parce que une réaction. Et c'est la statue de la liberté qui a été offerte aux États-Unis et qui se retrouve aussi à Paris en miniature et à Colmar, comme ma sœur l'a dit, parce que Bartholdi, c'est un colmarien, il vient de Colmar. Et ce symbole, eh bien, résume que cette flamme, c'est la science qui va éclairer les nations. C'est la science qui va résoudre tous les problèmes. C'est la science qui va faire que l'homme sera libre, plus. Moi, j'ai lu dans un livre que j'ai trouvé, enfin plusieurs livres, mais il y a un qui est bien coloré et tout ça, dans le grenier de ma belle-mère, où j'ai lu avec stupéfaction un livre qui a été écrit à cette époque-là, hein, on dit au XXe siècle, tous les problèmes seront résolus par la science. Tous les problèmes. Il y avait une foi dans la science. Le problème, c'est que les deux guerres mondiales ont désenchanté. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois un désenchantement. Désenchanté par la raison, désenchanté par la science. Et en 1989 et 2001, qu'est-ce qui est sorti ? Un nouveau symbole, qui, lui, est très bien décrit dans le film L'Odyssée de l'espace, de Kubrick, qui explique qu'on va aller vers Jupiter. C'est quoi Jupiter ? Je me suis beaucoup posé des questions ces derniers temps, enfin ces dernières années. Pourquoi Jupiter ? J'ai trouvé la réponse dans Daniel 12. Et la Bible a une réponse à tout. Et dans Daniel 12, j'ai beaucoup médité sur ce passage. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une compréhension de l'histoire. Daniel 12, regardez ce qui est marqué. C'est la fin des temps, Daniel. Daniel, c'est un peu l'équivalent de l'Apocalypse. C'est un livre apocalyptique. Et Daniel, non, 11, pardon. Daniel 12, ça continue. Daniel 11, il est dit que le roi. Daniel 12, 36, pardon. 12, 36. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, donc contre le Dieu d'Israël. Et au verset, bon, je vous fais grâce d'une étude de ce passage-là qui devrait être faite, et au verset 37, il n'aura d'attention pour aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Toutefois, il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal, et le dieu des forteresses, c'est Jupiter, ou Zeus, si vous voulez. Jupiter, c'est le nom romain, latin, et Zeus, c'est le nom grec, mais c'est le Jupiter. Et comme par hasard, dans ce film, on voit qu'au début, il y a toute une communauté, et à la fin, il reste un seul personnage, tous les autres sont balayés, et ils vont sur Jupiter. C'est un signe. C'est un signe, c'est un symbole. C'est un symbole, c'est une histoire inventée, un film. Mais ça porte la notion du panthéisme. C'est-à-dire que l'homme va revenir au panthéisme. C'est-à-dire à l'adoration de la nature la plus primaire qui soit, comme avant le christianisme. C'est pour ça qu'on veut balayer le christianisme. Tout le monde veut balayer le christianisme en disant... Il n'a pas existé, il n'a apporté que des horreurs, etc. Vous voyez, c'est le panthéisme. On retourne tout simplement à l'adoration de la nature, l'adoration du soleil et de la lune. Et le Seigneur a dit, je vais exposer ceux qui adorent le soleil et la lune, Ézéchiel 8. Et c'est donc un jugement qui est en train de venir sur le monde, qui dit, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai la raison. J'ai pas besoin de Dieu, c'est la science. J'ai pas besoin de Dieu parce que je me fais Dieu. Ok ? Voilà. Et c'est pour ça que l'individualisme aussi est très présent aujourd'hui. Ça va avec tout ça. Donc préservons-nous de l'individualisme. Venons dans une communauté. Dieu n'a pas prévu que nous soyons seuls. Et ce n'est pas parce que vous êtes un peu heurtés par les uns les autres qu'il ne faut pas venir. Au contraire, ça va vous aider à croître dans l'amour. Hello ? Vous me suivez ? Ça, c'est le plan de Dieu. C'est pas ce que moi je pense. C'est ce que dit la parole. Et en venant ensemble, en s'aimant, en étant non pas indépendants, mais dépendants les uns des autres dans l'amour, nous montrons à notre société qu'il y a une autre manière de vivre la société, celle que Dieu a prévue, qui n'est pas d'être indépendant, individualiste, autonome, mais de dépendre de Dieu. Et de vivre ensemble, en complémentarité respective, dans les projets, dans ce que nous faisons ensemble, de montrer... que le Seigneur nous utilise les uns les autres. Non pas un qui est au-dessus de l'autre, un qui est à côté de l'autre, qui coopère, etc. Vous voyez, ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Et c'est pour ça que les projets qu'on développe vont dans ce sens. Et ça me permet de faire une transition et on va prier. Je vous parlerai tout à l'heure des trois prochains dimanches où je vais faire des formations pour devenir membre, parce que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas membre de l'Église. Vous êtes membre du corps de Christ, mais c'est autre chose. Vous appartenez au corps spirituel. Mais pour appartenir ici, à cette Église-là, il faut que vous connaissiez la vision, que vous connaissiez l'organisation, le fonctionnement. Vous connaissez la manière dont nous fonctionnons. Pas comme moi j'impose de fonctionner, mais comme nous avons tous adopté, parce que nous avons une constitution, nous avons des statuts, nous avons des règlements intérieurs, nous avons tout un ensemble de textes qui nous constituent en tant qu'Église. Oui. Et ça, c'est le point d'après pour vivre ensemble. On parle beaucoup de vivre ensemble. Ben, vivre ensemble, ça repose sur des lois. Voilà. Nous avons la grâce de vivre dans des lois, dire des règles entre nous, et tout ça, il faut le connaître. Et donc, vous les connaîtrez au travers de ces formations dont je parlais tout à l'heure. Seigneur, nous te prions pour ta parole. Et Seigneur, tu as dit que c'est la vérité qui nous donnera la liberté, Seigneur, c'est que c'est vrai. Et Père, si nous acceptons de recevoir la vérité dans nos vies, par les uns, les autres, par n'importe quel moyen, Seigneur, qui nous dise non pas simplement des choses spirituelles, très très polissées, mais simplement ça, ça va pas, ça, tu m'as heurté, etc. Seigneur, que nous puissions accepter et que nous puissions nous remettre en cause. Et que dans cette remise en cause...